Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Nous poursuivons avec cette deuxième table ronde le forum Environnement, que faire pour demain, commencé tout à l'heure aujourd'hui et qui se poursuivra demain. La première séquence était consacrée aux enjeux du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Pour cette deuxième table ronde, nous allons aborder les questions politiques, les leviers de la décision. Que peut le politique, qu'est-ce qu'il ne peut pas aussi, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et à différents niveaux, qu'ils soient locaux, nationaux, européens, internationaux. Pour ce débat, cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir à la table Bastien François, Hervé Le Treut et Michel Colombier. Le débat sera animé par Sylvain Bourmeau, qui est journaliste, producteur de radio à l'émission La Suite dans les idées sur France Culture et surtout directeur d'AOC. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer donc avec cette deuxième table ronde, effectivement, en abordant les choses cette fois sous un angle politique, en se posant la question de savoir quelle politique publique, au fond, quelle décision peut-on tenter de mettre en œuvre à différents niveaux pour s'affronter pour affronter ces questions de changement climatique. Think global, act local, donc c'est cette formule connue depuis longtemps et qui ne concerne pas que ces questions d'ailleurs, qui nous est proposée. Et le panel a été construit en fonction de l'imbrication, je dirais, des différents niveaux, chacun étant censé plus ou moins porter un niveau d'intervention. On aura le niveau international avec Michel Colombier, qui est à l'autre extrémité de la table, et qui est le cofondateur et le directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations international. On aura à l'autre extrême du spectre Hervé Le Treut, mais cette fois qui est climatologue et qui à ce titre intervenait dans le débat précédent, mais qui intervient aussi en tant que membre du comité scientifique de Acclimatera Nouvelle-Aquitaine. Donc est-ce que l'échelon local, du moins celui de la région, de la grande région, est pertinent, dans quelle mesure? Et puis Bastien François, j'imagine, a été rangé au plan de l'État-nation, même si je sais qu'il s'intéresse aux questions européennes en particulier, et puis pourquoi pas aux enjeux locaux. Bon, voilà, je pense qu'on va dépasser assez vite ce cadre-là pour se poser la question plus généralement des leviers d'action politique, des politiques publiques qui sont menées, de ce que la politique peut faire à l'écologie, mais aussi probablement de ce que l'écologie fait à la politique ou de ce qu'elle devrait faire à la politique. Je pense que c'est intéressant de regarder les choses également de ce point de vue-là. Donc Bastien François, dont je n'ai pas précisé qu'il était professeur de sciences politiques et qu'il était jusqu'à il y a peu le président de la Fondation de l'écologie politique. Alors, je voulais commencer par vous, Michel Colombier, parce qu'on a immédiatement tendance de manière spontanée à se dire que ces enjeux climatiques sont d'abord et avant tout des enjeux globaux. Le climat, c'est à l'échelle de la planète au moins qu'il se pense. Et donc le plus important se situe à ce niveau-là. Et ce n'est pas au plan politique nécessairement le plus facile dans la mesure où on connaît les difficultés qu'il y a à réguler, à réglementer, qu'il s'agisse de climat ou d'autres questions. D'ailleurs, à l'échelle de la planète entière, on sait que ce n'est pas un cadre politique aussi institutionnalisé, aussi effectif que celui qu'on retrouve, par exemple, à l'échelle d'un État institué depuis des siècles et qui a l'habitude de prendre des décisions et de faire en sorte qu'elles soient respectées, ce qui n'est pas toujours le cas à l'échelle de la planète. Comment vous percevez les choses de ce point de vue-là? Où en est-on de la capacité à prendre des décisions au niveau global, s'agissant du réchauffement climatique, par exemple?
Oui, merci. Bonjour à tous. Je pense que c'est une question qui a beaucoup évolué, justement, dans les 10-15 dernières années. Vous l'avez dit, c'est des questions qui sont des questions globales. Enfin, je pense que Hervé vous a parlé de questions de climat, de biodiversité, mais on en a bien d'autres, des questions d'inégalité, des questions de pauvreté, etc., dont on comprend bien qu'elles ne peuvent pas être en effet appréhendées autrement qu'avec une forme de coopération internationale. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette coopération. Et je dirais qu'il y a Il y a quelques années, on y allait peut-être, en tout cas le monde de l'environnement, dans cet espace nouveau, avec une vision un peu naïve de se dire on va faire des accords, les accords ça va retomber dans les États vont prendre des lois, on va faire agir des acteurs, etc. Bon, en fait, la communauté internationale, vous l'avez rappelé, ne fonctionne pas comme ça, c'est pas des États. Et alors après, on peut être tenté de se décourager au contraire en se disant finalement tout ça sert pas à grand chose, il y a des grands messes, on prend des accords, Paris, Kyoto, etc. Moi, je pense que la vérité est quelque part entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut attendre et pourquoi c'est extrêmement important d'avoir cette gouvernance internationale ? Et je vous donnerai un exemple quand j'en parle avec des élus locaux, des amis qui sont élus concrètement à Toulouse, par exemple. On a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de créer de la confiance entre les États. Pour que les États puissent eux-mêmes s'engager dans l'action, on a besoin d'une forme de confiance. Parce que sinon, vous voyez bien, la discussion est vite délétère. On dit, ouais, mais nous, on va faire, les autres, ils ne vont pas faire, les Chinois, les Allemands, etc., etc. Donc, il y a une espèce de destruction de la parole politique. On a besoin de créer cette confiance. Il faut comprendre que cette confiance, elle est à plusieurs niveaux. C'est une confiance dans l'action, parce que c'est un risque de changer, de quitter la société dans laquelle on est pour se dire, il faut inventer quelque chose d'assez radicalement nouveau, quand même. Hein. Ce n'est pas juste des ajustements mineurs. Donc, il y a un risque, un coût. Ce n'est pas forcément un problème de coût, d'ailleurs. C'est vraiment un problème de se dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va trouver un nouveau contrat social autour de ces questions-là ? Donc, ça, évidemment, ça fait partie du jeu. Il y a une autre dimension de confiance qui est extrêmement importante et qu'on a vraiment vu se manifester, qui est la confiance aussi entre des États très différents, comme l'Europe, les États-Unis, le Japon d'un côté, et puis les pays en développement. Et là, il y a deux questions fondamentales sur cette dimension-là, sur cet axe-là. Une qui est évidemment la question d'adaptation, dont j'imagine qu'Hervé a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont vulnérables, qui ne sont pas trop à l'origine, qui n'ont pas les moyens. Donc en fait, une question de solidarité globale qu'on doit aussi faire porter par la question internationale. Et il y a une deuxième question qu'on doit comprendre aussi qui est importante, parce que sinon elle retombe dans tous les autres forums de la discussion internationale, qui est le besoin pour les pays en développement de se dire « c'est pas un nouveau truc des pays industrialisés pour partir tout seul dans un monde qui nous est interdit ». Et ça, c'est extrêmement important. Ça peut être à la fois positif et négatif et destructeur. Et on a besoin de rassurer que c'est un mouvement qui est un mouvement qui doit être inclusif. Donc je crois que c'est ça qui est extrêmement important à comprendre et c'est ça qu'un accord international peut aider à faire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il fait deux choses. Il crée en effet un espèce de cadre formel. Il ne faut pas le nier non plus. Ce cadre existe. Les gouvernements rentrent à la maison. On se demande quand même qu'on va le mettre en œuvre, etc. Et puis, par rapport à ça, vous avez vu qu'il y a des ressorts de rappel, qu'on voit s'élaborer progressivement une justice climatique qui peut se référer à ces accords, par-dessus même, d'ailleurs, les États et leurs droits. Parfois, on l'a vu dans l'avis du Conseil d'État français, pour dire à ces États, vous ne faites pas le job, etc. Donc, il y a bien cette relation-là. Mais ce qui est important aussi, c'est que les accords internationaux, quelque part, ils parlent à l'ensemble des acteurs de la société, ils leur donnent une direction, ils leur donnent un référentiel dans lequel ils peuvent, ça ne veut pas dire qu'ils doivent, ça veut dire qu'il faut d'autres leviers, mais dans lesquels ils peuvent eux-mêmes penser leur transition. Donc c'est un prolongement, finalement, de la parole scientifique, en créant des visions qui peuvent s'aligner, et on en a absolument besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre que ça ruisselle uniquement par de la création de lois, des machins. On a besoin qu'il y ait des entreprises qui, stratégiquement, certaines se disent « ben moi, il faut que je pense ça peut-être avant les autres, parce que sinon je vais me casser la figure ». On a besoin qu'il y ait des citoyens qui se disent « j'ai besoin de réfléchir à ce que j'attends d'une société comme ça », et qui finalement facilitent le travail politique aussi qui va se faire dans l'autre sens. Donc pour moi, c'est les deux choses extrêmement importantes. On pourra revenir après éventuellement sur de se dire « Paris, ça marche pas », etc. Mais les deux dimensions importantes pour moi sont celles-là. Et j'ai vu, en effet, je disais, donc des élus se référer... 3 semaines, 4 semaines après la signature de l'accord de Paris, par exemple, et a emporté des décisions politiques sur, tiens, le financement d'un tramway ou des choses comme ça, en disant, voilà, on vient de signer Kyoto, vous ne pouvez pas, monsieur le maire, refuser maintenant de s'engager dans cette voie. Donc on voit que c'est utilisé comme ça, je crois que c'est important.
Bastien, François, ce niveau international dont on a parlé, ces accords internationaux, on ne peut pas imaginer plus éloigné comme forme politique, des citoyens que ça. Or, l'une des questions, c'est comment on emmène les citoyens dans dans ces combats, dans ces changements. Et donc, j'entends deux choses dans ce que vient de dire Michel Colombier, à la fois l'importance de ces cadres, de la création de ces cadres, et en même temps le fait qu'il faut absolument récuser toute idée de ruissellement du très haut vers le peuple, en fait, à l'échelle des pays. Donc comment on fait pour d'une certaine façon partir de l'autre côté, et comment le monde politique qui est structuré depuis avant l'apparition, disons, la centralité de cette question, doit s'adapter pour lui laisser la place qu'elle mérite à cette question, qui est peut-être et probablement une place aujourd'hui très différente de toutes les autres questions, pour des tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être.
Alors, justement, je pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien faire. Ça veut dire que... La transition, ce qu'on appelle transition écologique, si on voulait le décrire assez simplement, on pourrait dire c'est la nécessité de changer nos sociétés. C'est-à-dire changer vraiment, enfin, inventer des nouvelles sociétés, une nouvelle façon de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer, nouveaux rapports au travail, même nouvelle conception de la justice sociale. Enfin, c'est bon. Et inventer des nouvelles sociétés, dans l'humanité, ça n'est jamais arrivé que les gens s'arrêtent un moment et se disent « Tiens, on va inventer une nouvelle société ». Évidemment, les sociétés se sont transformées, mais les humains ne se sont jamais retrouvés dans une situation comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un temps assez limité pour changer assez radicalement notre façon d'être au monde. Et cette question-là, c'est pas qu'une question socio-économique, etc., c'est d'abord une question démocratique, c'est-à-dire comment on va arriver à décider ça. On ne va pas le décider d'un coup, évidemment. Ça va être une multitude de décisions, parfois totalement hétéroclites, dans des échelles spatiales qui sont elles-mêmes hétéroclites, mais quand même. Donc, en réalité, la question de la décision, là, c'est la question des enjeux, disons, d'une ingénierie démocratique adaptée au XXIe siècle. Alors même, je rappelle quand même que nos systèmes démocratiques ont été inventés dans leurs principes qui n'ont pas beaucoup bougé il y a plusieurs centaines d'années. Et donc, qu'est-ce qu'il faut inventer? Alors, pour le dire très simplement, j'imagine qu'on y reviendra. Moi, je mettrai en avant 5 chantiers. Certains sont assez mûrs, d'autres sont très verts. Certains, on sait à peu près le faire, et d'autres, on ne sait pas du tout. Bon. D'abord, le premier chantier, à mon avis, assez évident, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, c'est ce que je pourrais appeler changer la vision du peuple souverain. C'est-à-dire que nous avons une vision du peuple aujourd'hui qui est un peuple passif, enfin qui reçoit de façon un peu passive la décision des élites, des sachants, de leurs représentants, bon, et à qui on n'accorde pas une capacité de prise sur la décision. Bon. Donc c'est tout le débat, par exemple, autour des assemblées citoyennes, la Convention citoyenne sur le climat, enfin ce que les sociologues appellent des mini-publics, enfin bon, il y a toute une série de choses qui vont dans ce sens-là. Ça ne règle pas tout à fait le problème de la décision. En réalité, on a encore beaucoup à faire sur articuler, par exemple, ces assemblées citoyennes à la décision, aux politiques publiques. Peut-être éventuellement j'y reviendrai, parce qu'on a une très jolie expérience, du point de vue d'expérience, justement, récemment, et qui pose justement le problème de la décision. Un deuxième chantier, assez différent, mais qui est très connu aussi, déjà, c'est ce que Rosan Vallon appelait la myopie des démocraties, ce qu'on pourrait appeler la préférence pour le court terme des systèmes politiques, qui est pour partie liée aux cycles électoraux. Bon. Là-dessus aussi, il va falloir inventer une façon de combattre cette préférence pour le court terme. Et il y a déjà pas mal de propositions. Et par exemple, en France, celle d'une troisième chambre chargée du long terme, etc. On pourrait voir comment ça s'articule, comment ça fonctionne, etc. Troisième chantier, il y en a 5, hein, donc là, je suis au troisième. Mais mon voisin serait plus compétent que moi pour en parler, sûrement, en tout cas avec une certaine expérience, c'est comment mettre la science dans la politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de la science. Je veux dire, sans le GIEC, de tout ça, on serait... Enfin, notamment le GIEC, sont toute une série de travaux de scientifiques qu'on ne serait pas du tout au courant de. Parce que je veux dire, l'acidification des océans, ce n'est pas en mettant le doigt dans la mer qu'on sait qu'il y a une acidification des océans.
Pas encore.
Pas encore. Bon. Et pendant très très longtemps, le changement climatique, on ne le ressentait pas physiquement, enfin, etc. Bon. Donc, alors évidemment, il faut pas être. Enfin, je veux dire, la science fait déjà de la politique. Hein. Le GIEC, c'est déjà une forme de rencontre, d'organisation, de négociation entre le politique et la science. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu, en tout cas, la question se pose de savoir comment on fait, comment on met cette science, alors pas simplement à la portée ou à la disposition des dirigeants, mais aussi des citoyens. Comment on peut la faire rentrer dans la délibération ? Alors, ce qui pose toute une série de problèmes, en particulier pour la science, c'est-à-dire qui est quand même construite sur son autonomie par rapport à la société, c'est-à-dire comment on la désautonomise. Alors là, il y a par exemple, Bruno Latour propose des choses très radicales, ce qui sont compliquées, mais très radicales. Par exemple, bon, on met à égalité totalement le savant et le citoyen. Enfin, bon. Voilà, ça, c'est le troisième chantier. Quatrième chantier. C'est la question là aussi un peu ancienne, mais qui est aujourd'hui, dont on mesure l'importance aujourd'hui, c'est la coupure entre nature et culture, humain, non-humain, etc. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour penser vraiment cette nouvelle société, il va falloir nous penser dans la nature et non pas à l'extérieur de la nature. Bon. Et là, comment est-ce qu'on fait entrer la nature dans la délibération politique, dans la représentation, etc. C'est tout le problème de la représentation des non-humains. C'était tout le problème de comment on accorde des droits subjectifs. Alors, là aussi, c'est une vieille question, mais et quels sont les dispositifs qu'on peut inventer pour. Et puis, dernier chantier, et là, on va rejoindre d'une certaine façon ce dont on parlait au début, c'est la question des échelles. Là, on réfléchit jusqu'à présent avec des catégories très ancienne, celle des États ou celle des subdivisions territoriales des États ou celle des constructions supra-étatiques. Bon. Si on veut être un petit peu rigoureux, il faudrait qu'on raisonne avec une catégorie qui est une catégorie qui a été mise beaucoup en valeur par une juriste et philosophe australienne qui s'appelle Robin Eckersley. C'est la catégorie des affectés, les personnes affectées. Bon. C'est-à-dire que nous avons toute une série, on prend toute une série de décisions qui ont des conséquences extrêmement lointaines, etc. Bon. Mais des conséquences qui ne sont pas liées nécessairement au territoire sur lequel théoriquement la décision porte. Bon. Donc comment introduire les affectés dans l'espace des protagonistes hein, ou des parties d'une délibération, d'une décision. Donc là on est très loin d'être capable, pour le moment, de réfléchir dans ces catégories-là, parce que c'est des catégories qui font exploser la façon dont s'est construit les États, etc. Bon. Donc voilà, là, on a cinq chantiers qu'il va falloir traiter. On ne sait pas très bien comment les traiter, mais qui sont absolument nécessaires pour être en capacité de prendre les décisions, et en particulier, pour répondre à votre question, hein, pour faire passer, par exemple, des discussions internationales au niveau international, et au niveau national, il va falloir trouver des dispositifs intermédiaires qui permettent de les assimiler, de les délibérer et de transformer tout ça en décision.
Hervé Le Trotte, je vous donne la parole, non pas simplement pour venir insérer l'échelon régional dans tout ça, mais plutôt pour réfléchir à cette question des échelles, hein, par laquelle terminait Bastien François. On sait bien qu'on ne peut pas se passer d'aucun niveau, je veux dire, depuis la personne, l'individu, probablement, comme le niveau le plus infra, jusqu'aux sommets internationaux. C'est ce qu'on a inventé pour l'instant de plus global. Avec toujours des difficultés à commensurer, au fond, à rapporter à des expériences personnelles, des décisions qui concernent des continents. C'est l'une des difficultés qu'on a à se représenter le problème aussi.
Oui, alors c'est un sujet qui, effectivement, sur lequel on peut argumenter à partir d'enjeux un peu différents les uns des autres. Donc, moi, je peux peut-être dire en un mot, effectivement, moi, je suis plutôt au départ, et même en partie à l'arrivée, un scientifique de la conception globale du système climatique. Bon, j'ai travaillé sur des modèles climatiques, sur des... Et il y a deux aspects qui m'ont fait un peu changer de trajectoire par rapport à ça, et je pense que ça pourra un petit peu éclairer votre question. La première, c'était le problème de tout ce qu'on n'arrive pas à faire quand on essaie, en tant que scientifique, de regarder le problème climatique dans ce qu'il a de résonnant ou de fort par rapport aux besoins de décision. Alors, quand on regarde ce que la science nous apporte, elle nous apporte effectivement une vision des problèmes qui est une vision un tout petit peu insuffisante. Quand on regarde le système climatique, ce que fait le GIEC, auquel j'ai participé pendant, et je renie rien du tout, au contraire, mais on regarde un monde qui est un monde un peu particulier. C'est un monde où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de... C'est un monde où il n'y a pas non plus facilement une capacité à mettre en lumière les activités économiques, celles des gens, celles de comment est-ce qu'on peut développer une compréhension d'un certain nombre d'enjeux, parce que en lien avec la biodiversité, en lien avec d'autres problèmes, en lien éventuellement avec les droits de l'homme, enfin avec beaucoup de choses, tout ça n'existe pas dans nos modèles. Donc il y a un moment où cette insuffisance-là pèse. Alors moi, j'ai eu la chance d'être sollicité dans ma région d'origine, à Bordeaux, pour faire un travail au départ qui m'intéressait surtout en tant que Bordelais. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de solutions qui pouvaient émerger de ce contexte régional de manière plus forte que je ne l'avais pensé. Alors, c'est venu d'abord de manière un peu négative. Je me suis rendu compte, et quand je dis « je », c'est un jeu qu'il faut multiplier par tous les gens qui ont participé à ça, et on a été à un moment presque 400. Hein. Mais c'est un jeu qui fait un petit peu oublier la capacité de regarder ces problèmes-là sous un angle vraiment très différent de celui auquel on était habitué, mais en même temps de voir que ça n'était pas... on a fait deux volumes importants de 400 ou 500 pages, je ne sais plus. Enfin, ce qu'on a remarqué, c'est que de toute cette science, qui était une science aquitaine pour l'essentiel, très peu avait servi pour prendre des décisions. Quand on regardait l'impact qu'a pu avoir ce travail qui a été fait dans les universités de nos régions, très peu de choses étaient venues de la science. Et quand on regarde un peu plus en détail, on se dit que le langage de la science ne permet pas non plus facilement. On a une éthique à nous, qui est une éthique très, 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 très forte. Et puis à côté de ça, on a des gens qu'on a appris à côtoyer dans la région aquitaine en particulier, mais aussi dans la métropole ou dans la municipalité, qui ont d'autres besoins, d'autres nécessités, d'autres manières de réfléchir. Donc cette difficulté à lier les choses est je crois, quelque chose de très, très, très important, très difficile. On s'est rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui est probablement un des nombreux problèmes qui empêche de passer d'une forme de savoir à l'action. Donc, ce qui va avec, c'est la représentation du territoire comme étant véritablement un lieu différent de ce qu'on est habitué à analyser quand on est scientifique. C'est-à-dire, c'est un lieu où il y a des gens, où il y a des actions multiples, où il y a des besoins de compréhension de ce qu'est le territoire qui sont différentes. Et je me suis rendu compte que c'est des sujets qui sont assez peu étudiés, finalement. Quand on regarde ce qui a pu se passer sur les régions aquitaines après les grandes tempêtes, on a eu plusieurs grandes tempêtes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des mortalités particulières? Est-ce que... On voit que tout ça a été assez peu étudié, finalement. Donc, je dirais qu'au bout du compte, moi, ça nous a affecté beaucoup, tout le groupe de personnes que j'ai citées. à faire aussi autre chose qui est d'aller voir les gens. C'est-à-dire que c'est venu assez vite dans la réflexion qu'on a pu avoir, aller dans ce qu'on appelle les sous-capitales de la région Aquitaine, plus, et ensuite Nouvelle-Aquitaine. Et donc rien de tout ça ne représente des choses très, très originales, mais la somme de tout ça, je pense, crée une collectivité qui est différente. Je crois. Donc le travail qu'on a fait, c'est un travail qui est un travail bénévole, hein, pour la plupart, sauf on a eu une ou deux chargées de mission de la part de la région. Mais c'est un travail qui permet effectivement de poser un regard différent. Donc ça reste des choses fragiles, mais je crois que cette échelle locale, elle est nécessaire si on veut vraiment créer, supprimer cette distance qu'on a aux gens. Je pense que de ce point de vue-là, ça a été efficace. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent que d'être capable de mettre sur la table des ouvrages qui se réfèrent réellement à ce que les gens ressentent, d'être capable d'aller les voir, d'être capable d'aller les écouter, ça apporte un plus. Je ne veux pas dire que c'est la solution de tout, mais ça apporte un plus par rapport à ce qui existe. Et en particulier, donc, au niveau de tout ce qui est prise de décision, j'ajouterai une chose qui, pour moi, s'est développée de manière dans les plus récentes dans mon état, par rapport à ce que je pense, c'est que tout ce qui s'est passé dans les dernières années montre que le changement climatique, il est inexorable aujourd'hui. Les marches de retour en arrière sont faibles. Donc on est face à un problème qui est évolutif et qui demande une réflexion et une manière d'envisager les choses un peu différente de tout ce qui a été avant. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que je pense qu'on peut aussi valoriser quelque chose qui se passe à l'échelle régionale. Parce que les échelons régionaux sont différents les uns des autres, pratiquement tous. Et on vient toucher à des besoins d'arbitrage qui sont aussi absolument nécessaires. Aujourd'hui, tout n'étant plus possible, on est obligé d'arbitrer entre un champ qu'on va dédier à des ressources solaires ou à faire des agrocarburants, par exemple. Bon. Donc je crois qu'il y a là aussi des espaces de réflexion qui sont, je crois, très particuliers de ce que peuvent être des efforts régionaux. Voilà, moi je dirais que ça m'a fait énormément réfléchir, en particulier à la nécessité d'approche transdisciplinaire, parce que tout ce dont je parle, ça n'a de sens que si c'est transdisciplinaire. Donc voilà, moi j'en suis là, ça m'a beaucoup intéressé. Je ne pense pas qu'on soit arrivé au bout de ce qu'on peut faire, mais en tout cas, je crois qu'il y a des domaines qui n'ont pas été beaucoup explorés et qu'on peut regarder dans ce cadre-là.
En vous entendant, je me souvenais, parce que juste avant qu'on commence, je vous disais qu'on s'était rencontrés la première fois il y a longtemps à France Culture, et là je vois mieux, en fait. Je suis à peu près persuadé que c'était juste au moment de cette tempête de 1999, tempête entre Noël et le jour de l'an de cette année, fin d'année 1999. Et je vous avais invité à France Culture, et je me souviens que vous étiez extraordinairement prudent dans le fait de lier ou pas ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les modèles du climat global, et puis un phénomène précis, particulier comme celui-là. Et je me dis que ça fait 22 ans maintenant, c'est très peu de temps au regard de l'échelle du changement climatique et de la condition anthropocène. Et en même temps, dans ces 22 ans, on a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses. On a des épisodes climatiques de plus en plus fréquents et qui nous invitent à faire le lien entre le changement global et ses manifestations. Et je pense que dans la perception que tout un chacun peut avoir désormais de cette question, ça joue un rôle important. Mais ça me faisait penser à ce que vous disiez de l'éthique scientifique et de sa relation à la prise de conscience et à la décision politique. Hervé Le Treut.
Oui, alors C'est un des problèmes auxquels on a toujours été confronté quand on a travaillé même en Aquitaine, c'est de savoir exactement comment se positionner par rapport aux politiques, justement. La région Aquitaine a fait un choix qui, moi, je trouve assez judicieux, qui est de définir. On a un projet qui s'appelle Aclimaterra, dont on a mis le nom sur... Et puis, il y a un projet qui s'appelle Néoterra. Alors, globalement, Aclimaterra, c'est le projet des scientifiques. Et puis, Néoterra, c'est le projet des gens qui commencent à déployer un certain nombre de choses sur la région Aquitaine. Et bien sûr, l'un va avec l'autre, parce qu'ils ont besoin de notre diagnostic et on a besoin de leur action. Mais on peut le faire chacun avec le respect d'une certaine éthique. Je pense que pour nous, c'est essentiel. C'est vrai que souvent, on appelle ça de la modération. Ce n'est pas de la modération. Pour nous, c'est au contraire un principe extrême, le fait d'avoir une éthique dont on ne s'écarte pas. Je pense que j'ai toujours été irrité un peu par ce mot de modération. On n'est absolument pas dans la modération. On cherche au contraire à aller au bout de ce qu'on doit faire et de comment on doit le faire. Mais par contre, et c'est vrai que sur ces problèmes de tempête, par exemple, ce n'est pas du tout le même résultat obtenu si c'est une tempête qui est survenue plein de fois avant. On a fait des tests. Il y a eu beaucoup de tempêtes avant qui n'ont pas laissé beaucoup de traces, sauf dans des archives qu'il faut aller consulter. Et c'est pas les mêmes. Et puis, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Je pense que s'agissant de la région Aquitaine, c'est toujours pas tranché, dans la mesure où on n'a pas les conditions qui sont normales pour avoir des tempêtes aussi fortes en hiver. On n'a pas encore bien compris. Donc, je pense que c'est important d'arriver à lier les choses sans les tordre, si vous voulez, en gardant en fait ce qui fait l'intérêt un petit peu de chacune de ces approches.
Michel Colombier, on a parlé de, on a parlé d'espace au pluriel, de tailles différentes, etc. On a un petit peu parlé de temps et de temporalité, et c'est quand même au moins aussi important que les espaces s'agissant de cette question, parce que j'y faisais allusion en parlant de ces 20 dernières années, pendant lesquelles quand même on a pris conscience de façon beaucoup plus aiguë de la question. Quand je dis nous, c'est vraiment tout le monde, plus ou moins vite, et on en tire des conséquences politiques, puisque c'est ça notre sujet, différente probablement, selon les personnes. Mais Bastien François parlait de la nécessité désormais de prendre en compte institutionnellement le temps long du fait de ce court-termisme qui prévaut en politique. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Est-ce que de la même façon qu'il y a une imbrication des échelles, il pourrait y avoir une imbrication des temporalités, en quelque sorte?
Oui, pour moi, les deux questions sont d'ailleurs assez imbriquées. En fait, je suis tout à fait d'accord avec les catégories que Bastien François a présentées. Et je suis d'accord aussi qu'on n'est pas encore très avancé. Moi, je suis un peu optimiste au sens où... Enfin, je pense que vous l'êtes aussi. Au sens où il y a énormément d'expérimentation partout. Donc, je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Après, comme on est un peu pressé, il faut qu'on partage les expérimentations et qu'on les accélère. Mais de ce point de vue-là, on vit une époque formidable, comme disait un humoriste célèbre. Alors, sur la question du temps... En fait, il y a deux questions dans ce problème de ramener le long terme. Il y a une question de ramener le long terme du point de vue des désaffectés, comme c'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire de créer cette préoccupation. Là, moi, j'avoue que je suis un peu décalé dans ce débat-là, parce que je ne suis pas complètement convaincu qu'il faut que certains s'emparent de la représentation des affectés du long terme. Et j'ai tendance à penser que la démocratie, bah, finalement, elle parle à des citoyens. Et je ne vois pas pourquoi les citoyens ne seraient pas concernés par le long terme si on a les délibérations qu'il faut pour que les citoyens prennent conscience de la question du long terme et qu'à un moment donné, ils soient plus intéressés par le devenir de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants ou des arrière-petits-enfants des Chinois que par savoir la bagnole qu'ils auront l'année prochaine. Donc là, pour moi, il y a une question quand même qui est importante parce que, évidemment, qui sont les gens qui s'emparent de la question de dire « moi, je représente les autres », c'est toujours compliqué. Mais il y a une deuxième question qui est importante sur la question de ramener le long terme, c'est que, ça a été dit, on est face à des questions complexes que d'abord, moi je me rappelle très bien ces discussions qu'on a eues avec Hervé, justement, à l'époque, sur l'attribution, etc. Alors, plus on regardait loin, plus on pouvait dire, à l'époque on se demandait encore si le changement climatique c'était une réalité, etc., plus on pouvait dire, ben oui, on voit dans les modèles quelque chose qui n'est pas le bruit qu'on peut avoir de l'incertitude, mais on voit bien un signal qui se révèle, etc. Et les signaux, à l'époque, on nous disait, à 50 ans, ils sont très clairs, à 20 ans, c'est un peu moins, etc. etc. C'est relativement normal. Donc, on a d'abord besoin de regarder un petit peu loin pour comprendre à quoi on est confronté, et puis on a besoin de regarder un petit peu loin pour comprendre ce qu'on peut faire, les formes des solutions. Alors, ce n'est pas de la planification. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire à 2050, à quoi ressemblera la société, etc. Ça ne fait pas de sens. Et en même temps, on a quand même besoin de commencer à construire des espaces de solutions, justement pour mettre une société en délibération, ou pour appeler cette société, d'ailleurs, à les co-construire, ces espaces de solutions. Je ne vais pas leur présenter d'espaces de solutions comme ça. C'est quoi des espaces de solutions? C'est imaginer comment demain on peut vivre, avec quel type de besoins, quelle façon de les satisfaire, etc. Et quand on dit ramener ce long terme, ça veut dire on ne fait pas ça pour faire de la politique fiction, on fait ça pour revenir aujourd'hui et se dire quelle est ma responsabilité aujourd'hui dans des décisions que je dois prendre parce qu'elles vont laisser une empreinte. Et évidemment, on doit à la fois, malgré les incertitudes sur comment ça sera demain et les incertitudes sur ce qu'on aura entre les mains, d'ailleurs pour construire des solutions, parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a un certain nombre de choses, l'évolution de ce qu'en attendent les sociétés humaines. Mais malgré ça, on a un impératif d'action, évidemment, étant donné ce qu'on entend. Et cet impératif d'action, je pense qu'on peut le construire dans cet aller-retour permanent entre la façon dont la société peut se projeter dans des espaces de solutions et dont elle doit en délibérer aujourd'hui et se dire, du coup, c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui? Et vous faisiez allusion à la conférence de citoyens, pour en discuter un petit peu. Moi, j'étais dans le comité d'organisation de cette conférence, qui a été une expérience fascinante. Enfin, moi, j'aime beaucoup, de toute façon, le débat citoyen, la délibération, etc. Bon, Hervé en a parlé un petit peu, déjà parce que ça fait du bien. Mais parce que c'est là aussi, évidemment, que se créent les solutions. Là, ça non plus, ça ne ruisselle pas, évidemment, top-down. Même si je le disais, on a besoin d'entendre top-down un certain nombre de messages pour construire ça. Mais on voit bien que dans la question de cette construction citoyenne et de la participation, il y a en effet une question importante et sur laquelle, je pense, la Convention nous a apporté beaucoup de choses ou beaucoup de démonstrations aux gens qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, de cette question-là, qui est la valeur de la délibération. On n'a pas demandé aux citoyens d'avoir des idées d'experts à la place des experts. Ça serait se tromper de débat. Par contre, on leur demande à eux de mettre ça en politique pour se dire quel sens ça fait, comment on peut le faire, etc. Bon. Donc ça, c'était passionnant. Et après, il y a la question, en effet, du rapport à la décision qui, là, on peut le dire, a été un peu raté. Mais ça me semble une question absolument essentielle dans ces allers-retours de mise en responsabilité aujourd'hui de notre action à tous et donc de l'action des politiques, du retour vers les politiques. De la façon de répondre à ces défis. Et on a besoin d'ouvrir aussi pour une raison très simple qui est quand vous prenez... Parce que je disais, les deux sont liés, l'espace et le temps. En fait, l'espace, on n'est pas des géographes, on ne colorie pas non plus des cartes qui s'arrêtent aux frontières. Dans l'espace de la planète, on a des tas d'acteurs qui sont transnationaux aussi. On a des ONG qui se parlent, on a des scientifiques qui se parlent, on a des citoyens qui se parlent, qui ont des familles de l'autre côté. On a maintenant des entreprises qui se promènent dans tout ça. Et donc, on n'a pas un découpage en fait euclidien de la planète, évidemment. Ça, c'est relativement important. Et on est obligé d'en tenir compte aussi dans l'organisation de ce débat.
Avant d'aborder l'expérience de la Convention citoyenne, qui peut être effectivement un point intéressant, Bastien François, sur cette question de la temporalité, personnellement, je dois dire que je suis toujours assez pessimiste par rapport à ça, mais parce que peut-être j'ai eu des lectures il y a longtemps qui parlent de free rider, de passagers clandestins, des lectures de théoriciens de démobilisation sociale qui montrent à quel point les gens ne se comportent pas forcément de manière altruiste, a fortiori s'il s'agit d'altruisme à horizon plusieurs dizaines, voire centaines d'années, et qu'ils rapportent tout ça à leur durée de vie, et même envisager l'avenir de leurs enfants n'est pas toujours quelque chose de nécessairement mobilisateur. Donc est-ce que là, on ne va pas assister à l'émergence de clivages politiques nouveau entre des gens qui acceptent de prendre cette responsabilité dont il est question là, et puis d'autres qui sont dans des attitudes de freerider et de court-termisme, et à mesure peut-être aussi que le mur approche et que, comme pour reprendre l'expression de Pierre-Henri Castel, on vit avant la fin des temps, les temps de la fin, et des temps de la fin qui sont assez
qui risque d'être assez politiquement violent, en fait.
Oui. Avant, je voudrais simplement réagir sur l'intervention d'Hervé Lautreux, parce que il illustrait d'une certaine façon ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait qu'il fallait repenser ou penser ou approfondir, je ne sais pas, les relations entre science et politique. Et dans son expérience, il disait aussi qu'il y avait peut-être aussi un petit problème de langage, de traduction, etc. Bon. Et moi, par exemple, avec beaucoup d'autres, on est en train de réfléchir à la façon à l'université. Moi, je suis prof de sciences politiques, donc c'est des sciences sociales. Je fais du droit, enfin, je travaille avec des économistes, etc. De remettre des sciences de la nature aux étudiants. Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi... Alors, j'y reviendrai après sur la décision. Il y a un problème de traduction aussi. Il y a un problème de culture. Bon, et un des enjeux de la décision à venir, des chemins de la décision, c'est un peu partager une culture. Et ça, c'est assez important. Alors après, sur la préférence pour court terme. Bon, d'abord, il faut dire les choses... Tout ce dont on dispose comme étude sur la préférence pour le court terme montre que, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Il n'y a pas un facteur unique. Et tout le monde n'a pas une préférence pour le court terme. Loin de là, même. Bon. Voilà. Donc, Alors, le problème, en réalité, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut inventer des institutions ou des dispositifs institutionnels ou des modes de décision, peu importe, qui obligent à un moment donné à se rendre compte qu'on est là dans la préférence pour le court terme, qui aurait un autre point de vue qui serait un peu différent et à quelles conditions on pourrait l'adopter. Et par exemple, les gens, j'en fais partie, hein, qui ont proposé, alors après, c'est des propositions dans une grande discussion, et vous avez raison de dire que... Alors c'est d'ailleurs assez excitant, c'est-à-dire qu'il y a toutes les sciences sociales qui se mélangent comme jamais pour discuter de la nouvelle démocratie. C'est quand même extraordinaire. Bon. Enfin, quand on connaît l'état de ces disciplines avant, et bon, c'est-à-dire que le changement climatique aura fait quelque chose d'assez important de ce point de vue-là, hein, sans qu'il y ait une science sociale unique nécessairement. Enfin bon, c'est une toute petite parenthèse. Donc tout ça pour dire qu'on essaye d'inventer, on propose à la discussion des dispositifs, des institutions. Bon, là, l'idée, en réalité, ce qu'on pourrait appeler une troisième chambre parlementaire, c'est pas tellement que certaines personnes accapareraient la représentation du long terme ou des générations futures. L'idée, c'est de dire que des gens qui ne seraient pas dans le cycle électoral, donc qui seraient tirés au sort, bon, auraient une capacité non pas de décider... mais d'intervenir, par exemple, d'avoir un droit de veto sur des décisions pour obliger les gens à redélibérer. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mécanismes qui obligent à rediscuter, à remettre en débat, éventuellement à convoquer une convention, enfin une assemblée citoyenne sur un sujet parce qu'on n'est pas allé assez loin, etc. Donc c'est plutôt dans ce type d'invention qu'il faut aller plutôt qu'essayer de trouver une hypothétique représentation parfaite des générations futures qu'on ne trouvera jamais. Donc on est là dans quelque chose d'ailleurs assez excitant, c'est-à-dire qu'il faut inventer des petits dispositifs vertueux qui permettent de discuter plus intelligemment, de mettre des acteurs dans la discussion qui n'y sont pas. Par exemple, quand le conseil régional demande à des scientifiques, etc., c'est une façon d'ouvrir la discussion, de se forcer à entendre des arguments, etc. Bon. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse dans le renouveau. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est en cela qu'on peut combattre, qu'on peut espérer combattre ou limiter les effets tout à fait naturels, d'ailleurs, qu'on éprouve nous-mêmes dans notre propre vie, du présentisme. Voilà.
Hervé Lautreux.
Oui, je suis d'accord avec tout ça de manière très, très forte. Je voulais rajouter peut-être deux choses. C'est sur la temporalité. Je pense qu'il y a un mauvais usage qui peut être fait des études axées sur la temporalité qui sont là aussi à l'interface entre ce que comprennent les scientifiques et ce que comprennent d'autres personnes. Ce qu'on a vu beaucoup comme manière de réfléchir sur la temporalité dans les modèles de climat, ça consiste à se projeter vers 2100 à peu près. Et puis après, on revient à la tâche zéro. Et puis cette tâche zéro, elle nous dit ce qu'on doit faire en pensant toujours à 2100. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est une mauvaise approche à un certain nombre d'égards. D'abord parce que, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer dans un délai aussi long. Donc ce que l'on fait quand on fait des modèles comme ça, c'est une sorte de, ce que disait, qui était dit tout à l'heure de manière très, très juste, je pense. C'est-à-dire, on a besoin de se créer des formes de réflexion, des formes de culture, mais on n'a pas besoin d'avoir des résultats extrêmement affinés. Donc, quand on fait cette espèce de démarche-là, on va en fin du siècle, puis on revient là, et puis on se retrouve avec une solution qui est une solution incertaine, qu'on essaie de rationaliser sur une toute petite échelle de temps, mais qui n'est pas appropriée, en fait. Et au bout du compte, je pense qu'on efface effectivement le besoin de faire des choses rapidement. On se dit, ben, finalement, un an de plus, un an de moins, finalement, par rapport au centre. Alors, c'est un enjeu que je trouve dangereux à plusieurs égards. D'abord parce qu'il il ignore le fait que le futur est quand même imprécis et que cette imprécision, c'est une richesse. Et très souvent, c'est pas très bien compris. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans. Il n'y a pas moyen de savoir. Les modèles ne sont pas d'accord entre eux de manière très, très, très stricte. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du problème, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on est, entre guillemets, modéré, ça veut dire qu'on doit trouver des formes d'action qui sont, à mon avis, des formes d'action qui se développent de manière un petit peu différente. On est face à des choses qu'on doit démarrer tout de suite, on les démarre tout de suite. On n'est pas très certain de comment il faudra les modifier, il faut être en capacité de modifier les choses au fur et à mesure du moment, au fur et à mesure qu'elles se développeront. Donc je crois que c'est très important. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne faut pas quand même oublier dans la temporalité ce qu'elle apporte d'indispensable. Les problématiques du climat sont des problématiques dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont être, mais on sait qu'il y aura des changements. On sait qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont évolutives, qui vont évoluer. Alors ça dépend des pays, ça dépend des lieux, ça dépend. Mais cette évolution-là, il faut l'anticiper et il faut la préparer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait de manière automatique. C'est quelque chose qui doit se concevoir petit à petit. Et donc je crois qu'il faut il faut donner à, je sais pas comment dire, mais à ces enjeux-là une certaine forme d'épaisseur. C'est un peu, je crois, ce que tu voulais dire aussi. On doit avoir un corpus qui fait qu'on s'est fait une opinion sur ce qui peut être important, intéressant. Moi, dans la conférence citoyenne, ce qui m'a gêné, c'est effectivement, par exemple, de clore la réflexion à, je crois que c'était 10 ans, en fait, la temporalité qui était choisie. Comment ?
Je reviendrai là-dessus.
Mais... Voilà. Et je pense que c'est une erreur quand on regarde un certain nombre de choses dont je peux parler en tant que climatologue, c'est-à-dire que l'échelle de temps à laquelle on peut essayer de concevoir la neutralité carbone, c'est pas cette échelle-là. Il n'y a pas moyen de faire ça à cette échelle-là. Donc c'est une erreur, je pense. Donc il faut s'intéresser au temps long. Mais en même temps, il faut le faire dans des conditions qui soient raisonnables. Je pense que ce n'est pas toujours le cas.
Michel Colombier.
Oui, je vais rebondir sur deux choses. Une très rapidement, parce que tout à l'heure, on a parlé justement de ces questions un petit peu d'alerte, et vous posiez la question, est-ce qu'on ne va pas voir apparaître dans la société des clivages nouveaux, etc. Il y a eu une chose extrêmement intéressante, c'est quand on a eu les grands feux en Australie, souvent on se disait, moi je me rappelle les discussions de scientifiques, on se disait, bon, bah, quand les gens vont être confrontés au problème, ils vont bien comprendre. Et en fait, toutes les enquêtes qui ont été faites en Australie au moment et après les grands feux ont montré que les gens qui avaient déjà confiance dans le diagnostic scientifique et qui pensaient que c'était important, etc., ces problèmes-là ont renforcé leur confiance dans le diagnostic. Mais tous les gens qui pensaient que ce n'était pas sérieux, en fait, très rapidement, ont adhéré à une thèse qui était « c'était les écologistes qui mettaient le feu ». Et donc, ce n'est pas simple la façon dont les sociétés s'emparent, y compris de choses qu'on pourrait se dire bah « là, au moins, il y a une preuve, quoi, il y a quelque chose, même si toi, tu nous dirais que ce n'est pas une preuve ». Voilà. C'est compliqué, la façon dont ça résonne dans une société et dont elle le met en politique. Donc ça, je crois que c'est une chose, on est en train d'apprendre ça. Enfin, nous, on apprend ça, il y a sûrement des gens qui le savaient beaucoup mieux que nous déjà avant. Mais je suis d'accord avec mon voisin là-bas, si on va peut-être mourir plus intelligent, c'est déjà intéressant. Sur la Convention citoyenne, juste un mot. Le mandat à 10 ans, comme tu sais, Hervé, hein, c'est pas le comité d'organisation qu'on a décidé, c'est notre président à tous, qui en gros a mis, à mon avis, un mandat à la Convention qui n'était pas forcément le bon mandat. C'est dommage parce que c'était un exercice intéressant, parce que le mandat, en gros, c'était chiche, hein, moi j'y arrive pas, faites-le à ma place. Donc c'était un peu compliqué de donner un mandat à la fois de concevoir l'ensemble de la politique française, comment je résous les 30%, et en leur donnant un objectif à 10 ans, qui est un objectif sur lequel, justement, certains ont déjà fait un construit, comme tu dis, pour se dire, du coup, 2030, voilà une étape, etc. Mais pour les gens, ça ne veut rien dire. Pour les gens, cette étape-là ne veut rien dire et ne permet pas de penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont un peu abstraits. C'est-à-dire qu'eux, après avoir écouté d'ailleurs un certain nombre de personnes, eux-mêmes se sont un peu abstraits de ça en se disant de quelle société on a envie. Donc ils ne se sont pas dit en 2030, qu'est-ce que c'est quoi le thermostat qui va permettre de baisser les émissions de X%, etc. Aucune capacité à appréhender ça. Et en fait, ils ont quand même beaucoup orienté la discussion vers, mais finalement, dans quelle société on veut vivre? Est-ce qu'on peut imaginer dans cette société-là? Qu'est-ce que ça veut dire émettre du carbone ou pas du carbone, etc. Et moi, je trouve que, indépendamment de la question de la décision à la fin, mais ne serait-ce que la présentation et les commentaires qui ont été faits de leurs propositions étaient extrêmement pauvres par rapport à la qualité des discussions qu'ils ont eues et des raisons pour lesquelles ils faisaient des propositions. Et je vais vous en donner deux, juste pour illustrer très rapidement. Il y en a une qui a été le fameux polémique 110 sur l'autoroute. Tout le monde se dit, ça y est, c'est encore des Khmer verts, il faut rouler à 110, c'est embêtant, etc. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est bien. C'était quoi les délibérations? Les délibérations qu'ils ont eues sur le sujet, c'était, on a bien entendu les gens qui nous disent, d'un côté, il faut quand même réduire, quoi, hein, faut mettre des moyens de le faire. Et d'un autre côté, ceux qui nous disent, oh, les transports, c'est compliqué, la voiture électrique, mais de toute façon, pour l'instant, ça coûte très cher, et puis machin, etc. Puis il y a la taxe carbone, mais alors bon, ça a mis les gilets jaunes dans la rue, puis je sais pas quoi. Et ils s'étaient dit, mais finalement, au milieu de tout ça, d'un point de vue justice, c'était leur proposition, leur analyse. Obliger tout le monde à rouler à 110, c'est pas dramatique. Il y en a même qui nous ont dit, on a fait l'expérience pendant 3 semaines, entre 2 conventions. Moi, j'étais persuadé que j'allais mettre une demi-heure de plus pour aller au boulot parce que j'habitais à 30 bornes. Finalement, je perdais 3 minutes et encore pas tout le temps. Bon. Donc, ils ont travaillé ça. Et leur truc, c'était de dire, écoutez, ça, on peut le faire. C'est un truc, c'est pas un truc qui tape sur les pauvres spécialement, pour une fois. Et donc, on pense que, voilà. Donc, c'est un espèce de jugement sur à la fois la nécessité et le fait que là, on avait un truc qui tapait pas sur les pauvres. Je dis pas qu'il... Enfin, voilà, je vais pas porter un jugement là-dessus, mais la discussion est intéressante. Bon, celle-là, ils l'ont votée. Dieu sait qu'il y a eu des discussions, parce qu'il y a des gens dans l'affaire qui vendaient des voitures de luxe et tout ça. Donc, il y a des arguments qui se sont échangés. Deuxième sujet, je vais y aller même beaucoup plus vite sur celui-là, parce qu'il était simple. Proposition qui a été refusée finalement par la Convention, mais refusée à une courte minorité, qui était travailler 4 jours par semaine. C'était pas une proposition décroissantiste. Le débat à la fin sur le sujet était, nous ici, on a eu la chance de faire l'expérience d'une délibération. Et pour ça, on nous donnait notre vendredi, parce qu'on avait négocié ça pour les gens de la Convention citoyenne, et on y a trouvé plaisir, on pense qu'on pouvait être utile, et on pense qu'on aimerait bien que les Français partagent une expérience comme ça. Et de façon un peu provocatrice, ils disaient, le temps de la semaine, bon, le week-end, on a déjà la famille, les courses et machin, ça serait bien que les gens y trouvent du temps dans leur semaine pour s'intéresser à la chose collective et vivre ce que nous, on a vécu. On a eu cette chance-là, et les gens ne l'ont pas eu. Et il disait, à un moment donné, c'est bien pour ça que la question référendaire et tout ça nous inquiète un peu, parce qu'on aimerait bien que tout le monde fasse le chemin qu'on a fait. Ce chemin de la délibération, de la confrontation des opinions, pour finalement se forger une idée au terme de cette délibération. Et moi, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, de voir la maturité collective de ces 150 personnes, qu'on a vraiment tirées au sort, contrairement à ce qu'on peut lire par ailleurs. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et ça se résume pas ça à une liste de solutions un peu techniques telles qu'on a pu le voir dans la presse. Pas ça. Pour moi, c'était pas ça la leçon de cette convention.
Alors, pour repartir de cette expérience, élargir les choses, Hervé Le Trot disait tout à l'heure que pour un scientifique, c'était bizarre au début de se dire que les territoires auxquels on s'intéressait, ils étaient peuplés par des gens et qu'il y avait du social, en gros, dans cette dimension physique de la planète. on pourrait faire au fond un peu la même remarque en partant de cette convention, parce que c'est une expérience, mais elle est totalement hors sol. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, la première réflexion qui m'est venue, c'est pas de remettre en cause le tirage au sort, etc., que je trouve très intéressant, mais c'est plutôt vous disiez, ces gens n'étaient pas des experts, on leur a donné les moyens de comprendre les choses. Donc il y a des experts qui sont venus leur parler. Mais qui a choisi les experts? Alors ça, c'est une question qui est très importante, que je me pose sans arrêt, puisque j'ai cette responsabilité comme disait Pierre Bourdieu, de videur de boîte de nuit, de physionomiste. Hein, je décide qui a le droit d'entrer dans les médias ou pas, à qui je tends la parole. Et c'est la plus grande des responsabilités, à mon avis, pour un journaliste aujourd'hui, au moins aussi importante que la vérification des faits, pour l'entretien de l'espace public. On voit aujourd'hui dans quel état est cet espace public du fait de la prévalence de logique économique dans certains médias qui font qu'on laisse entrer n'importe qui. Et je pense que la question du climat nous a permis aussi pendant longtemps de voir que ces logiques du pif-paf de l'opposition ont fait qu'on avait des climato-sceptiques sur le plateau, parce qu'il fallait bien produire de l'objectivité journalistique, sous-entendu cette espèce de rituel où, dès lors qu'on a un pour-contre, on fait bien son travail de journaliste, quoi. Voyez. Donc ça, c'est cette idéologie professionnelle avec laquelle nous, journalistes, on doit travailler et qui vient brouiller un peu l'expérience, parce qu'on ne peut pas répéter à l'échelle du pays entier et de l'espace public, dans les mêmes conditions, malheureusement, cette expérience, dans la mesure où vous avez des chaînes d'infos en continu, et puis pas seulement, y compris des médias sérieux, qui vont laisser entrer un peu n'importe qui pour venir expliquer en tant qu'expert, avec des guillemets, ce qu'il faudrait savoir ou pas. Donc comment cette dimension médiatique des choses, elle vient compliquer les tâches politiques qu'on doit imaginer. Comment vous l'appréhendez les uns les autres?
Ouais, si je peux peut-être juste réagir un mot là-dessus. J'ai le sentiment... Il y a eu une discussion, évidemment, toute une discussion sur quels experts on amenait dans cette affaire-là. Je ne peux pas y revenir, sauf si vous voulez qu'on approfondisse ça. Mais il y a eu une discussion plus intéressante qui était la discussion... Il y a des gens qui voulaient, en gros, qu'on mette les citoyens dans un bocal. C'est-à-dire que pas dans ces... Et heureusement qu'elle a duré longtemps, mais pas dans l'année, là, de machin. Il aurait fallu qu'il soit pur et qu'il n'ait plus d'interface avec le monde. Et je trouvais que c'était la pire idée, en fait.
Bien sûr.
Évidemment qu'ils ont des interfaces avec le monde, ils rentrent chez eux, ils voient leur belle-sœur, ils voient leurs voisins, ils regardent la télé, ils machin. Et c'est très bien, parce que l'intérêt de l'expérience, c'est justement de voir ça. Et je crois qu'une des choses qu'ils apprenaient dans ce travail, c'était justement à regarder ce qui leur était proposé par les médias, etc., etc. C'est-à-dire, la question n'était pas tant dans le fait de savoir si nous, on leur apportait les bonnes infos, les machins, on les protégeait des mauvaises, parce que ça n'existe pas, mais plutôt la question de savoir si par leur travail de délibération, par la façon dont ils se confrontaient, dont on leur a dit quand ils s'engueulaient, du genre simplement « moi je suis pour, moi je suis contre », on dit « maintenant ça c'est ça ». Enfin, eux-mêmes d'ailleurs très vite ont dit « mais c'est pas ça dont on veut discuter ici, c'est pas comme ça qu'on peut parler ». C'est du coup la qualité pour eux de reconstruire cette vision critique, de se dire « j'entends ça, qu'est-ce que ça veut dire », etc. Et on avait mis un certain nombre de personnes, un tout petit groupe d'experts à leur disposition, qui n'étaient pas du tout, des gens qui connaissaient le débat, qui n'étaient pas du tout là pour leur dire « on vous a dit ça, mais c'est juste ou c'est faux », mais qui étaient là pour leur dire « là-dessus, vous allez un peu vite, parce qu'il y a des gens qui, en fait, en discutent et ne sont pas d'accord. Donc vous devriez retourner voir et aller voir. » Mais en fait, ils allaient voir certains la semaine. Alors, il y avait des différences de capacité, d'accès, etc. Mais justement, c'est ça une population. Dans cette population, il y avait des gens qui avaient des façons différentes d'aller sourcer les questions et de revenir le mois d'après avec « moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça ».
Mais ça, et vous avez raison. L'idée d'inviter Claude Allègre à venir parler à ces gens.
Non, ce n'est pas invité d'inviter Claude Allègre.
Pour prendre un nom.
Non, mais il y a un moment où on a fait des choix.
Or, quand on est dans l'espace réel.
Ils ont forcément, pour certains, ils avaient évidemment vu, écouté, voir, défendaient des thèses. On en avait quelques-uns qui défendaient ces thèses-là. Et donc la question, c'était plutôt qu'est-ce que le collectif était capable de faire de ça. Et je crois que c'est ça qui est important. Et du coup, pour conclure. On peut se poser deux questions. 150 personnes, ce n'est pas le pays. Donc la question de à quoi ça sert dans la décision est une chose, 150 pour une décision, etc. Mais l'autre question qui est, est-ce que ces processus-là, on ne va pas refaire des conventions citoyennes organisées comme ça, avec les mêmes moyens, etc., jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Mais je crois que c'est un petit laboratoire de montrer qu'est-ce que donne, par contre, la délibération de citoyens quand ils sont mis dans cette situation. Et il y a des tas d'opportunités de les mettre dans des situations comme ça, qui ne s'appellent pas des conventions citoyennes, mais qui sont de la démocratie locale, exactement ce dont Hervé parlait. Et je crois que ce qu'on a vu là, c'est la capacité, si on fait confiance quelque part à des citoyens dans l'ensemble des institutions, c'est leur capacité à produire quelque chose, y compris ce que vous attendez, c'est qu'eux-mêmes aient un regard critique sur les médias qu'ils ont et finalement, qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans intelligent ou insupportable.
Hervé Le Trot, vous voulez...
Oui, j'ai participé à un ou deux actes de cette convention, mais je n'ai pas vraiment participé de manière forte. Mais je crois quand même qu'elle a été marquée par ce qu'on peut appeler les méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient effectivement complètement étrangers à ce milieu-là, et puis il y a une manière de cadrer les débats, d'informer les débats, qui ont une valeur, je pense, intrinsèque, et qui permet ensuite de laisser s'exprimer vraiment la diversité des opinions dans un cadre vraiment qui évite tous ces effets un petit peu subalternes consistant à aller chercher juste la personne qui dit quelque chose de contraire à tous les autres, alors que c'est pas du tout... Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse pas avoir raison contre les autres, mais en tout cas, il faut le démontrer, il faut être capable d'être... Donc je crois que de ce point de vue-là, j'ai toujours trouvé que... En ignorant un petit peu la remarque que j'ai faite sur la temporalité qui était associée, j'ai toujours trouvé que c'était sur des méthodes qui sont d'ailleurs utilisées depuis assez longtemps. C'est la première fois que je les vois au niveau gouvernemental, mais qui sont utiles et qui sont, je crois, très, très, très importantes à mettre en jeu. Voilà, j'avais autre chose à dire, mais je ne suis plus tout à fait sûr. ça va me revenir. Mais en tout cas, je pense que c'est des enjeux qui sont... qu'on a quand même plus... ça ne vient pas de rien, en tout cas. Je crois que si on mettait des gens dans une salle comme ça et puis qu'on n'avait rien à leur proposer, il ne se passerait pas du tout.
Non, mais voilà. Ma question n'était pas du tout de remettre en doute ça. C'était plutôt de voir comment ce type de dispositif-là peut profiter à l'espace public de manière plus globale. Parce que, comme le disait Michel Gombier, on ne va pas faire en sorte que tous les Français passent... dans ce dispositif-là, c'est-à-dire que c'est une expérience, on peut en tirer des leçons et on peut, à partir de là, essayer de réfléchir à la façon dont on structure le débat public. Et là, on est face à des difficultés quand même assez grandes. Bastien, François.
Il faut peut-être le rappeler, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de le rappeler aux gens qui nous écoutent. Nous, on le sait à cette table, mais c'est pas... Il ne s'agit pas de tirer au sort 150 personnes, les mettre dans une salle, puis vous discuter. Il y a quand même une méthodologie, il y a beaucoup d'expériences. Déjà maintenant, c'était une expérience, nous on peut la lire comme une expérience ou un laboratoire, mais il y a déjà beaucoup d'expériences, des méthodologies, il y a des techniques d'animation, c'est très sophistiqué. Hein, bon. Et c'est vrai que les médias en ont rendu compte de façon assez inexacte. Assez peu d'ailleurs, mais de façon assez inexacte, parce qu'évidemment, il fallait suivre ces débats. Bon. Et là, on voit bien dans les débats comment des points de vue très minoritaires ou très radicaux se confrontent à la délibération et comment se construit quelque chose de sophistiqué, non pas des consensus nécessairement, mais des façons de parler en commun ou de repérer des problèmes, etc. Bon. Et là, si on croit aux vertus de la délibération organisée, encore une fois, alors après, évidemment, on peut discuter sur les modes d'organisation, qui choisit quoi, qui décide, etc. Je veux dire, en réalité, on voit que les résultats sont quand même assez bluffants dans la capacité à parler de problèmes qui sont pas parlés ou parlés de façon caricaturale dans l'espace public ou dans l'espace politique restreint de la représentation. Bon. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans cette expérience, c'est une autre expérience dans l'expérience, qui a été la mise en place, alors là, pas un média n'en a parlé, qui a été le comité légistique. C'est-à-dire, c'est rare, hein, je crois que moi, j'en avais jamais vu avant, c'est-à-dire qu'on a mis à la disposition des 150, des juristes, pour les aider, à quoi ? À traduire ce qu'ils disaient. Parce que, je veux dire, quand on intervient comme ça, on intervient sur, dans une société qui existe déjà, donc il y a déjà du droit national ou international, il y a déjà des choses qu'on croit inventer mais qui existent déjà dans la législation, etc. Bon. Et là, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que se poser, c'est un peu la même chose avec la question dont on parlait, des langues dont on parle, la science, par le politique, etc. Bon. Les citoyens, mais nous d'ailleurs de façon générale, on parle une langue qui n'est pas la langue de la décision, qui est la langue de la décision, une langue particulière qui est parlée par des personnes particulières. Bon. Et ce travail assez compliqué, qui ont eu du mal d'ailleurs à savoir son... Bon, c'était assez bricolé, hein, à vrai dire. Bon. Mais c'était extrêmement intéressant, la façon de voir comment est-ce qu'on passe d'une délibération à une décision. C'est-à-dire que le président de la République avait, vous en souvenez, dit cette chose assez maladroite, du sans-filtre. Enfin, ça n'existe pas, le sans-filtre. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sans-filtre. Bon. Donc, à partir de là, évidemment, on est parti dans des discussions totalement hors sol, alors qu'en réalité, ce qui se jouait là, c'était comment est-ce que de la délibération organisée peut déboucher sur quelque chose qui puisse embrayer sur des politiques publiques. Et là, c'est là que c'est très compliqué, et c'est là que cette expérience est extrêmement intéressante. Et beaucoup plus intéressante encore que ce qu'on raconte, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je pense que là, on a un cas très particulier sur un mandat très large, trop large sans doute, hein, des problèmes qui vont se poser à l'avenir sur comment on traduit dans des politiques publiques très concrètement des délibérations citoyennes. Et rien que pour ça, cette expérience était une expérience extrêmement intéressante. Donc non, moi, je crois que là, on a quelque chose... On a vécu une expérience. Alors en plus, ils ont eu l'intelligence des organisateurs d'ouvrir la convention à plein de chercheurs qui ont travaillé sur la façon dont ça se passait, qui c'était, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fin énormément de données, vraiment des données d'enquête, hein, sur le déroulement de cette expérience. On va en tirer beaucoup de leçons. Moi, je suis à la différence de enfin, moi, je pense que c'est un modèle qui peut être dupliqué assez largement, localement ou nationalement, sur des mandats moins larges, hein, parce que là, les mandats sont très larges, bon, mais qui permettent de réouvrir des questions, en tout cas, pas nécessairement de décider, hein, de réouvrir des questions, de redéfinir des univers de pensables. De aussi d'anticiper sur des formes d'acceptabilité, parce qu'il faut bien qu'on ait ça en tête. Les décisions qu'on va devoir prendre posent des problèmes d'acceptabilité dont les dirigeants ont le plus grand mal, ou les élites ont le plus grand mal, tout simplement parce qu'ils sont les élites et qu'ils vivent dans un autre monde, ont le plus grand mal à percevoir. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important pour réussir justement les transitions écologiques. Si je défends la Convention citoyenne, ce n'est pas parce que j'aimerais la démocratie, la délibération, les citoyens, etc. Bon, c'est que je pense d'abord que si on veut réussir, c'est à prendre des décisions très compliquées dans un monde incertain, parce qu'effectivement, l'horizon temporel est très incertain, dont on a du mal à penser ensemble, de façon systémique, l'ensemble des variables, on a besoin de ce type d'outils.
Juste faire peut-être une petite remarque sur le fait que c'est des choses qui peuvent se transcrire aussi dans le problème de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque, mais c'est un peu, pas complètement dans le sujet, mais je vais juste faire la remarque parce que ça en est très proche. On a vraiment un manque d'éducation citoyenne. Moi, je vois beaucoup de débats qui sont des débats sur comment enseigner les enjeux du changement climatique aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile de séparer ces débats-là des débats qui soient des débats concernant un enjeu vraiment citoyen. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, en fait, avec tous les outils qu'on connaît pour l'éducation nationale, des repères qui vont donner des axes de réflexion qui seront nécessaires. Je crois que si on les isole de toute réflexion citoyenne, et cette réflexion citoyenne, on la trouve effectivement dans des objets comme ceux qu'on décrivait ici. Et ça va être très important dans le futur. Je crois qu'on aura vraiment besoin d'une génération de gens qui soient capables de s'émanciper un petit peu de ce qu'on leur... Enfin, d'avoir quelque chose de construit, mais qui s'émancipe un petit peu par rapport à... et qui leur permettent des décisions personnel, parce qu'on sait plus comment, on est dans un monde qu'on aura du mal à deviner et qu'il faudra des gens qui sachent s'y orienter par eux-mêmes.
Oui,
juste un rebond. Ouais. C'était parce que vous disiez, je mettais pas en cause le fait que c'était un outil qui pouvait être réutilisé et dupliqué. Hein. Ma question, c'était, est-ce que 50 millions de Français ou 60 millions de Français vont avoir l'opportunité de passer par là? On n'est pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Hervé. C'est extrêmement important. Dans la Convention, on s'est posé la question, on a fait venir des gens dès 16 ans. En se disant, c'est l'exercice de la démocratie aussi qui apprend la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on pense ça avec l'école, c'est-à-dire comment c'est pas quelque chose de livresque, la question de la démocratie, mais comment on la fait fonctionner, y compris dans l'école, y compris relativement jeune, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas la façon dont fonctionne notre école en France.
Il nous reste quelques minutes, s'il y a des...
Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions.
Questions.
Alors, moi, j'en ai une. Enfin, c'est plutôt une remarque à propos de ce que vous avez évoqué à propos de la Convention citoyenne pour le climat, dont on a vu qu'il y avait effectivement un hiatus entre la richesse des débats et après peut-être les décisions qui ont été prises et la difficulté de la mise en pratique ou en décision politique. Il y a déjà eu un précédent en plus avec le grand débat, avec ce grand déballage qui n'a abouti peut-être pas à grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en portant ce genre de dispositif extrêmement riche, avec à la fin une conclusion un peu décevante pour ceux qui ont suivi, en fait, que ça décrédibilise en fait ce genre de dispositif. Ça va bien sûr au-delà de la question de l'environnement. Hein. Et éventuellement, comment on peut dépasser justement ce risque?
Enfin, moi, je crois pas. Enfin, moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de risque réel quand on met des gens à discuter entre eux et qu'ils sortent des choses plutôt intéressantes. En réalité, pour moi, le risque, ça serait plutôt le silence autour de ça. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus ou ça, voilà. Moi, j'ai trouvé quand même, j'ai dit les médias, c'était peut-être un peu injuste, mais j'ai trouvé que les médias ont mis beaucoup de temps à s'intéresser à ça. On n'a pas eu des grandes pages dans les quotidiens qu'on aurait pu imaginer, enfin, où il y aurait un résumé des débats sur des sujets, parce que ça aurait été extrêmement intéressant, y compris peut-être plus intéressant que les pages opinion dans les journaux où il y a des intellos qui signent des tribunes, enfin, la synthèse d'une discussion de 150 citoyens. Alors, ils n'étaient pas toujours 150 parce que la plupart du temps, ils n'étaient pas en plénière, ce qui d'ailleurs pose un petit problème ça a pu poser, à mon avis, un petit problème dans la circulation, parce qu'il y a final, enfin, des bon. Mais enfin, ça, c'est une petite parenthèse, c'est pas très important. Bon. Mais je veux dire que je crois qu'il n'y a pas de risque. Alors, oui, il y aurait un risque, mais parce qu'il y a toujours un risque d'instrumentalisation de la démocratie par les gouvernants. Bon, il y aurait un risque de donner des mandats tellement larges qu'ils n'auraient pas de sens, etc. Hein, bon, c'est clair que lorsque, pour moi, enfin, en tout cas, et c'est vrai que les citoyens en sont un petit peu sortis. C'est-à-dire, quand on demande à 150 citoyens de régler le problème en 10 ans de baisser de 30% le carbone, et parce que nous, on ne sait pas, franchement, ce n'est pas sérieux, ça. Ce mandat, en soi, n'est pas très sérieux. Bon. Mais ce qu'on voit, c'est quand on les met ensemble, qu'ils commencent à discuter sur des thèmes là-dessus, on débouche sur des choses qui sont différentes, qui sont, elles, très sérieuses, qui sont immédiatement dans le quotidien, sur lesquels on peut se parler, en plus. C'est pas de l'abstrait. Donc, non, moi, je suis pas inquiet. Je crois que ceux qui s'amuseraient à refaire ça... Plus personne peut dire sans filtre, maintenant, par exemple. Et c'est-à-dire qu'on sera obligé de dire quel filtre on met. Non, mais... Oui, donc, il y a un moment donné, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi de l'expérience. Les gens vivent, ils apprennent. Là, on est en train d'apprendre quelque chose. Je veux dire, il y a quand même quelques années, on aurait raconté, même au début, quand ce que M. Macron a annoncé ça, on aurait raconté que ça avait un sens de tirer au sort 150 personnes pour imaginer des solutions pour l'avenir. On aurait dit, ah, c'est pas très sérieux, c'est des trucs de sociologues. Bon. Voilà, aujourd'hui, c'est des dispositifs qui sont pensés comme crédibles, intéressants, peut-être pas suffisants. Bon. Mais voilà, donc, non, moi, je pense qu'il y a des expériences. Quand on dit des expériences, c'est aussi des expériences qui existent comme des acquis historiques. C'est-à-dire que maintenant, la prochaine fois, on devra faire un petit peu différemment. Et plus jamais un président pourra raconter devant la France entière vous me donnez vos propositions, et puis moi, je le fais, c'est directement voté. Ça, voilà, on sait que c'est pas vrai. Donc, pour la prochaine fois, il y aura un nouveau truc.
Michel Colombier.
Oui, je voulais juste réagir sur peut-être une deuxième dimension de risque. Là, vous dites, est-ce qu'il y a un risque à donner la parole à les citoyens? Moi, j'entends qu'il y a aussi dans la question, est-ce qu'il y a un risque à leur donner la parole et puis à la refermer aussi sec en fermant la porte quelque part? Par rapport à ça, je pense qu'il y a deux choses. C'était quand je disais que c'était une première expérience et tout, oui, en effet, il y a des tas de gens. Et d'ailleurs, on en avait mis dans notre comité qui travaillent déjà là-dessus, qui en ont fait à d'autres échelles, etc., etc. Quand je disais que c'était une première expérience, c'était la première fois qu'on faisait à l'échelle nationale sur un problème aussi fort sur lequel la moitié du pays était dans la rue juste un petit peu avant, une expérience de dire c'est par là qu'on va trouver des solutions. Ça, c'était quand même... Ça s'était jamais fait. Donc les enjeux ont été mis assez haut. Et oui, il y a un risque, évidemment, des gens de se dire tout ça pour ça, en gros, en disant... Et là, moi j'ai deux éléments juste de réponse. Il y en a un qui est qu'il y a un progrès aussi qu'on n'a pas trop commenté, qu'on n'a pas vu. C'est la façon dont on a fait mûrir la discussion de la représentation traditionnelle, la façon dont les députés progressivement ont énormément évolué sur leur compréhension, non pas du fait si notre exercice était bien ou pas, mais est-ce que ce truc-là est dangereux pour nous? Est-ce que c'est contre nous? Est-ce qu'on peut travailler avec ça? Bon, eh ben, je pense que là-dessus, il y a eu un progrès de fait. On a fait un pas. Il n'est pas visible, et c'est ma deuxième remarque, encore une fois, mais c'est ce que vous disiez sur d'autres choses. Les médias n'ont pas parlé de ça. Les médias, ils ont dit, oui, alors il y a quoi dans la loi? Il y avait quoi chez les 150 citoyens? Est-ce qu'on les retrouve? Mais se dire, est-ce qu'on a appris collectivement? Et je crois vraiment que quand on voit l'opposition radicale d'à peu près tous les députés au départ à cette affaire-là, ils ne voulaient même pas en parler avec nous quand on essaie d'organiser, etc. Et progressivement, non pas leur ralliement à la cause, mais le fait de se dire, c'est là, il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est pas forcément l'ennemi. Et ça, je pense qu'on a progressé là-dessus. Mais c'est juste, c'est pas visible, personne ne voit ça. Et c'est un progrès qui est peut-être aussi bien que de se dire, dans les 150 mesures, combien on en a.
Merci de faire cette remarque, parce que j'allais justement parler de cette dimension-là du risque, pour moi, qui était celui de contribuer à affaiblir la démocratie représentative, qui est dans un très mauvais état. Quand Bastien François disait tout à l'heure que les médias n'ont pas couvert la dimension délibérative de cette expérience, je veux dire, n'importe quel député pourrait dire « Mais attendez, on ne couvre pas notre travail. Le travail parlementaire n'est pas couvert par les médias. Le travail juridique produit par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel n'est pas couvert par les médias. On a l'impression de décisions magiques qui tombent du ciel, qui sont prises par le président de la République. Ou, je veux dire, la politique n'est pas représentée correctement médiatiquement. Et si, moi, loin de moi, l'idée de critiquer cette expérience, la question que je pose, c'est simplement celle de la manière dont elle peut... améliorer la démocratie représentative, pas la remplacer, contribuer à l'enrichir. Et donc, plutôt que de construire un circuit parallèle ou des micro-circuits parallèles, comment ça peut rejaillir, et je pense que vous en avez donné une illustration dans le fait que les parlementaires ont compris l'intérêt de l'expérience. Et mon doute personnel, mais parce que je vois... Média m'apporte, c'est plutôt sur la capacité des médias à jouer ce rôle, finalement, à se remettre au travail sérieusement, à restituer la qualité de ces débats, qu'ils aient lieu dans ce type d'assemblée ou qu'ils aient lieu dans des assemblées plus traditionnelles, en fait. Et je crois que là, on parle de très, très, très loin.
Oui, si je peux dire un mot en tant que régional. Je pense qu'effectivement, la représentation qui est faite... Bon, moi, j'étais très, très déçu par le taux de vote qu'il y a eu pour les élections régionales. Je pense que c'est un échelon essentiel de notre démocratie. Et de voir le désintérêt qui s'est manifesté à cet égard était juste... je trouvais presque effrayant, en fait, parce que c'est là que vont se jouer beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de... Et c'est vrai que les médias n'ont pas joué le rôle qu'il fallait à ce moment-là. Je crois que globalement, je dis bien sûr, il y a des tas d'exceptions, mais globalement...
La question des médias locaux est encore... pose
d'autres problèmes. Parce qu'en fait, il y a eu des débats dans les médias locaux, mais les médias locaux sont des médias un peu particuliers.
Il n'y a pas un pluralisme énorme en règle générale.
Voilà. Donc c'est... Mais au-delà de ça, je crois que c'est très important d'arriver à ce que ces débats politiques trouve une forme d'intérêt. Je crois que simplement, si les journaux et si les médias n'en font pas état, c'est parce que globalement, on n'a pas réussi à intéresser une partie des gens à ces enjeux-là, au-delà de considérations très locales. Donc je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là qui dépasse très largement ce dont on a discuté peut-être, mais qui me paraît essentiel pour la démocratie, oui, je crois que...
Merci. Oui. Je voulais juste évoquer l'échelon international que vous avez peu évoqué. Bientôt la COP26. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut de ce côté-là, que des décisions peuvent être prises? On a pu observer aussi une sorte de surenchère sur le pourcentage de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à un horizon assez proche. Qu'est-ce que vous attendez de la COP26 qui approche?
Ouais, moi, je ne suis pas sûr d'y être. mais je vais, pour des raisons diverses, mais je vais pas répondre directement à la question. Moi, je trouve que pour moi, les COP ont été une école. C'est-à-dire que petit à petit, je suis sorti de ce qui était ma casquette de scientifique devant un ordinateur en train de faire des calculs. Une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement les réunions de la COP, où les réunions où on peut se confronter en termes d'idées. Donc il y a une dimension de la COP qui est quand même, à mon avis... unique, je crois. Donc, je n'ai pas toutes faites, les COP, j'en ai fait un certain nombre, mais je crois que ça apporte des lieux d'échange, de formation pour les gens qui participent, qui sont sans équivalent. Donc je crois que de ce point de vue-là, moi, j'aime pas dire du mal des COP. Alors, est-ce que ces COP-là vont être plus capables de proposer des résultats? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas dire à ce stade-là. Je pense que... En fait, le seul fait que ça existe aujourd'hui, c'est déjà quand même un succès. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, je m'en contenterai éventuellement s'il y a des débats forts, s'il y a des... La prise de décision, c'est toujours quelque chose de plus compliqué. Et je ne sais pas si c'est essentiel. Mais je rejoins un peu ce qui a été dit à un moment donné. C'est la COP, pour moi, construit des formes de réflexion collective qui portent leurs fruits tôt ou tard, je pense.
Ouais, peut-être un mot sur celle-ci en particulier. Pourquoi a priori elle était importante? Pourquoi on se dit, tiens, Glasgow, voilà, des COP, je ne sais pas si vous savez, mais d'abord, les COP, qu'est-ce que c'est? C'est tous les États de la planète qui se réunissent pour rediscuter le sujet, en gros. Et ça se fait tous les ans. Même si techniquement, ils se réunissent plus souvent pour préparer, justement. Mais ça se fait tous les ans, pendant 15 jours, à un niveau dans lequel les ministres, parfois même les chefs d'État, se déplacent, etc. Donc vous avez vu les apex de cette discussion. De temps en temps, on nous dit que c'est la dernière fois qu'on peut sauver le monde. Bon. Sur le climat, par exemple, la dernière COP importante, ça a été Paris. Paris, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé trois choses, d'une certaine façon. On a écrit là-dessus, sur le site de l'IDRI, je vous renvoie, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup le temps là. Non pas pour se s'auto-congratuler de « on est content, on fait des COP, ça marche bien », etc. Mais pour se dire « est-ce que ça a changé quelque chose ?» Paris, ça a créé, pour la première fois depuis Rio, ça a remis la question dans un climat d'universalité, de la nécessité de trouver des réponses. Alors qu'on a passé 20 ans à s'engueuler nord-sud, à dire c'est de votre faute, c'est à vous de faire, c'est moi qui prends, etc. C'est extrêmement important pour créer cette confiance internationale. Ça, c'est quelque chose, un signal qui a été envoyé par Paris. Deuxième signal qui a été envoyé, c'était un signal dans lequel les pays sont arrivés en faisant des propositions, en disant, moi voilà, vous l'avez dit, hein, moi je vais réduire de temps, etc. C'est important. À la fin, ils ont signé un texte en disant, on va le mettre en œuvre. Donc on peut se alors, et dans ce texte, il y avait l'idée, parce que ce n'est pas une pensée magique, les COP, mais c'est un peu ce que disait Hervé, c'est des signaux qui sont envoyés après des délibérations, et il y avait l'idée dans ce fonctionnement de la COP de Paris de se dire, bon, ben, un grand signal politique comme ça, on essaye de l'envoyer avec des cycles de 5 ans, Donc, entre-temps, c'est des COP un peu techniques, etc., qu'on a un intérêt. Mais avec des cycles de 5 ans, ben, en fait, on a besoin de remettre une pièce dans la machine politique pour renouveler ces signaux, parce que si on ne les renouvelle pas, ils perdent leur crédibilité. Or, il y a plusieurs signaux dans cette affaire-là. Il y a un signal qui est ce que les pays promettent de faire, et il y a un signal qui est qu'est-ce qu'ils font réellement par rapport à ce qu'ils ont promis de faire. Et on pourrait se demander aujourd'hui à Glasgow quelle est la question la plus importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absence éventuellement de signal envoyé par Glasgow si ça ne se passe pas très bien, c'est en soi une déconstruction du signal de Paris. Ce n'est pas des accords dans lesquels c'est signé dans le marbre et à minima les pays vont faire ce qui a été dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la crédibilité de cet engagement collectif qui font que ça se met en place. Et si donc cette COP n'est pas capable de reconstruire un signal politique, Ban Ki-moon avait énormément investi. Je ne suis pas en train d'essayer de minimiser le travail diplomatique ensuite de la France, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait lui-même énormément investi un an avant pour créer une espèce de communauté de pensée qui disait « il faut que cette COP aboutisse », etc. Là, on voit bien qu'on n'a rien de tout ça. On est dans une période multilatéraliste, c'est compliqué. Les pays s'engueulent. On est dans un pays qui a fait le Brexit, dans une partie du pays qui veut brexiter de la partie dans laquelle elle est. La Chine, le truc, le machin. On est dans une période super compliquée. Et c'est vrai qu'il y a un risque. C'est que dans cette COP, ils ne se disent pas grand-chose. Ils ne s'envoient pas beaucoup de signaux. Et que donc, collectivement, on se dit, finalement, ces trucs-là ne servent à rien. Et c'est dommage parce que nous, ce qu'on a regardé de la question de Paris... Évidemment que ça n'a pas livré tout ce qu'on attendait, etc. Mais on voit que ça induit des mécanismes à l'échelle locale, à l'échelle juridique, à l'échelle des entreprises, des régions, etc. Ça induit des mouvements nouveaux dans les sociétés du monde. On a fait un rapport avec plein de pays et qu'on a regardé, mais comment chez vous ça se passe ? Et ce n'est pas des choses peut-être qu'on voit aujourd'hui dans les émissions, mais c'est cette mise en mouvement dont on parlait tout à l'heure et on a besoin d'une accélération de cette mise en mouvement. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu.
Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'il est l'heure qu'on rende l'antenne passée.
Merci à vous quatre. Merci au nom de la Bibliothèque publique d'information. Je remercie nos trois intervenants, Michel Colombier, Hervé Letreut, Bastien François. Merci pour leurs interventions riches et passionnantes. Et puis merci beaucoup Sylvain Bourmeau pour l'animation de cette rencontre. Je remercie aussi bien sûr les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre se passe le mieux possible et qu'elle soit diffusée en direct sur notre web télé. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver d'ici quelques jours sur le site de la BPI en replay ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pour la suite du forum, je vous invite, si vous êtes intéressé, c'est à conclure la journée avec le spectacle chorégraphique qui aura lieu à 20h dans le forum du Centre Pompidou et à nous rejoindre à partir de demain, 14h, avec la première table ronde sur la question des mobilisations citoyennes. Bonne soirée et à bientôt.